6h40 sur France Culture.
Le journal des idées, Jacques Munier.
Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
La présence du président américain à la réunion spéciale de l'OTAN prévue jeudi à Bruxelles est l'occasion de sonder la politique étrangère d'Emmanuel Macron.
Oui, car c'est le paradoxe relevé par Dominique Moïsi dans l'hebdomadaire Le 1. Le monde s'est passionné pour la France, mais le monde a été absent de la campagne électorale. Selon lui, le rôle de Macron est aujourd'hui de limiter les dommages que pourrait infliger Trump à l'Alliance Atlantique et de montrer qu'il y a une alternative occidentale à la dérive américaine. Si l'Amérique n'est plus ce qu'elle était et l'Europe plus tout à fait la même depuis le Brexit, nous sommes en première ligne face aux dangers venant du Sud et de l'Est, Russie, Ukraine. Notre politique étrangère a donc un rôle majeur. De Gaulle le disait déjà, c'est parce que nous ne sommes plus une grande puissance qu'il nous faut une grande politique. Le nouveau président sera-t-il à la hauteur des défis? Pour le géopoliticien, le salut viendra d'une Europe consolidée autour du pilier franco-allemand. Pendant des décennies, estime-t-il, la France a privilégié la politique internationale parce que c'était ce qui lui permettait de contrebalancer la puissance économique et industrielle allemande. Aujourd'hui, il conviendrait de rééquilibrer cette relation face au mouvement de balancier vers le monde asiatique, à la montée en puissance de l'Afrique, source d'espoir considérable et de dangers extrêmes, ou face au chaos moyen-oriental, une Europe intégrée est indispensable. Comment le nouveau président doit-il se comporter face à Poutine? Dominique Moïsi juge que si la Russie a poussé très loin son intervention dans la politique intérieure de la France, comme sans doute dans l'élection présidentielle américaine, la politique à son égard ne peut pas être seulement française. Nous ne pouvons décider de manière unilatérale la levée des sanctions à l'égard de la Russie sans un accord total avec Berlin sur ce sujet. Mais il faut reconnaître que les signes s'accumulent d'une embellie durable dans les relations franco-allemandes, et là je parle sous le contrôle de Thierry Garcin.
Chaque début,
ça va être votre sujet à l'instant.
Allez-y.
Chaque début recèle donc une magie cachée. C'est en citant l'écrivain Hermann Hesse lors de sa première rencontre officielle avec Emmanuel Macron, Angela Merkel a rompu avec sa retenue traditionnelle, souligne Thibault Madelin dans Les Échos. La composition du nouveau gouvernement, où les germanophones sont nombreux, n'est pas passée inaperçue. Outre-Rhin, notamment dans la presse, de Bruno Le Maire à Sylvie Goulard, d'Édouard Philippe à Emmanuel Macron lui-même, la germanophilie du nouvel exécutif français est un atout majeur pour la relance du couple franco-allemand, résume le correspondant du quotidien. Remarqué à Berlin, ce rapprochement culturel peut aider à dépasser les différends sur l'Europe.
Et le dépassement du clivage gauche-droite convient aussi aux Allemands et à leur culture politique du compromis, Jacques.
Oui, c'est le point retenu par Dominique Schnapper dans la page débat de La Croix. Du fait du scrutin majoritaire, la droite et la gauche gouvernementale étaient contraintes de se déplacer vers leurs extrêmes pour gagner l'élection, comme l'illustrent les thèmes identitaires mis en avant par Nicolas Sarkozy ou la déclaration de la guerre à la finance de François Hollande. Mais une fois au pouvoir, droite et gauche menaient une politique proche, à quelques mesures symboliques près. Les Français percevaient donc la vie politique comme un théâtre d'ombre. C'est ainsi que la sociologue explique le succès d'Emmanuel Macron, non sans relever qu'un nouveau clivage est venu se substituer à l'ancien, celui qui oppose mondialistes et nationalistes. L'enjeu des sociétés sociales démocratiques européennes est de trouver leur place dans la mondialisation, tout en protégeant leur population de ses excès, affirme-t-elle.
L'autre grand défi que vient rappeler l'attentat de Manchester, à la fois international et intérieur, c'est le terrorisme islamiste.
Oui, dans le Figaro, Gilles Kepel se demande si l'on n'a pas là affaire, comme à Nice, à l'un de ces djihadistes de troisième génération qui s'abreuvent à l'idéologie de Daesh, mais qui sélectionnent seuls leurs cibles, une nouvelle forme de djihadisme réticulaire qui s'inscrit dans la révolution culturelle terroriste que Daesh a mise en œuvre et qui s'inspire des écrits de Abu Musab al-Souri, particulièrement de son appel à la résistance islamique mondiale. En ciblant spécifiquement l'Europe, l'objectif est de créer des réactions violentes contre la population musulmane et ainsi d'enclencher des guerres civiles qui aboutiraient à l'effondrement de l'Europe et à l'établissement du califat sur le vieux continent. Le Royaume-Uni a mis en place un modèle à l'image de l'Inde britannique qui organise le communautarisme. Dans les villes comme Birmingham ou Manchester, des conseils de charia gèrent assez largement les affaires des musulmans, rappelle le spécialiste de l'islam politique. Les Britanniques pensaient pouvoir acheter ainsi la paix sociale. L'attentat de Westminster et celui de Manchester aujourd'hui ont sonné le glas de cette illusion.